Bonjour, au micro Idrissa Seydoulia, le président américain Donald Trump, qui a été testé positif au COVID-19 et hospitalisé, a salué dimanche depuis sa voiture les nombreux sympathisants installés pendant tout le week-end devant l'hôpital militaire Walter Reed, près de Washington, où il est soigné, puis il est revenu à l'hôpital. Auparavant, lors d'un point de presse à l'hôpital, un de ses médecins avait dit que si son état restait stable, M. Trump pourrait dès ce lundi quitter l'hôpital pour revenir à la Maison-Blanche et y poursuivre son traitement. Nous y reviendrons dans un instant. La ville de New York est prête à refermer écoles et commerces non essentiels dans 9 quartiers de Brooklyn et de Queens, où le nombre de cas de coronavirus est en forte hausse. Son maire, Bill de Blasio, a déclaré vouloir reconfiner ses quartiers à partir de mercredi et qu'il attendait l'aval du gouverneur de l'État, Andrew Cuomo. Et en France, Paris et sa proche banlieue vont être placés en zone d'alerte maximale à raison de la circulation accrue de l'épidémie et de nouvelles restrictions seront annoncées lundi, a déclaré le gouvernement à l'AFP. Les restaurants pourront rester ouverts en zone d'alerte maximale avec un protocole sanitaire renforcé pour lutter contre le COVID-19. Le Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe, a dépassé dimanche la barre des 500 000 cas. La pandémie a fait dans le monde plus d'un million de morts depuis fin décembre. Selon un bilan de l'AFP dimanche, environ 35 millions de cas ont été officiellement comptabilisés et au moins 24,1 millions de personnes ont guéri. La ville sainte chiite de Kerbala en Irak a commencé à accueillir des dizaines de milliers de pèlerins musulmans, dont un grand nombre d'étrangers, pour le pèlerinage de l'Arbaïn, malgré la pandémie. Le gouvernement irakien a autorisé l'arrivée de 1500 pèlerins par avion pour chaque pays. Plus de 375 000 Irakiens ont contracté la maladie, dont près de 9 500 morts. Des milliers de fidèles musulmans sont retournés dimanche à la Mecque pour effectuer la Umra, le petit pèlerinage entouré de strictes mesures de précaution après 7 mois d'interruption en raison de la pandémie. 8 migrants des Éthiopiens sont morts et 12 autres sont portés disparus après que des passeurs ont éjecté en pleine mer des jeunes hommes et des jeunes femmes d'un bateau au large des côtes de Djibouti, selon l'Office international des migrations. Ces migrants tentaient de regagner la Corne de l'Afrique après avoir échoué dans leur tentative de rejoindre l'Arabie saoudite via le Yémen à cause des fermetures de frontières imposées par la pandémie. En Allemagne, un étudiant juif a été grièvement blessé à coups de pelle porté à la tête dimanche par un homme de 29 ans devant une synagogue de Hambourg dans le nord du pays, a annoncé la police. Le chef de la diplomatie allemande a dénoncé un acte d'antisémitisme répugnant. L'assaillant a été interpellé et selon la police, il portait une tenue ressemblant à un uniforme de l'armée allemande. L'agence de presse allemande a dit qu'un morceau de papier avec une croix gammée a été retrouvé dans la poche de son pantalon. Des étudiants ivoiriens ont présenté dimanche des projets pour lutter contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Ce pays qui comptait 16 millions d'hectares de forêt dans les années 60 a vu leur superficie fondre à 2 millions d'hectares selon les chiffres officiels, principalement à cause du développement des plantations de cacao dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Finale NBA. Le Miami Heat, grâce à Jimmy Butler, auteur d'un énorme triple-double, a finalement battu dimanche les Lakers de LeBron James 115 à 104 pour réduire l'écart à 2 à 1. La première équipe à 4 victoires sera sacrée championne de la NBA. plein sud de nos informations, l'équipe des médecins traitant le président américain Donald Trump a fait un nouveau point de presse dimanche au Centre médical militaire national Walter Reed. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Lors de ce briefing, les médecins ont révélé que le président Donald Trump, hospitalisé pour COVID-19, avait connu deux épisodes de baisse transitoire de sa saturation en oxygène et que le président prenait maintenant un stéroïde en supplément du remdesivir, un médicament antiviral. Les signes vitaux du président étaient stables dimanche matin. Il s'est promené, ne se plaignant pas d'essoufflement ni de symptômes respiratoires. Si son état reste stable, le président pourrait être déchargé dès aujourd'hui pour revenir à la Maison-Blanche, où il poursuivra son traitement, a affirmé le docteur Garibaldi. Vendredi, le président Trump a eu une forte fièvre, ce qui a provoqué son hospitalisation, selon le docteur Conley. Le conseiller à la sécurité nationale, Robert O'Brien, a déclaré hier qu'une discussion sur le transfert temporaire du pouvoir au vice-président Mike Pence n'avait pas été discuté. Tous les événements de la campagne de réélection de Donald Trump impliquant le président ont été suspendus.
En Côte d'Ivoire, Kouadio Konan Bertin, candidat indépendant à l'élection présidentielle, s'est engagé dimanche à servir pour la paix et l'unité nationale lors de sa cérémonie d'investiture à Abidjan. Michel Joseph.
C'est en tenue de chef traditionnel et en brandissant un sceptre que Kouadio Konan Bertin est arrivé sur la scène du Palais de la Culture d'Abidjan. Ancien député de 51 ans, Monsieur Konan Bertin est le plus jeune des candidats. Dissident du PDCI, la principale formation d'opposition, Kakabé, comme on le surnomme, s'est notamment opposé à la désignation de l'ex-chef de l'État, Henri Konan Bédier, comme candidat du PDCI. Déjà candidat en 2015, M. Konan Bertin n'avait obtenu que 3,88% des voix. Ancien président de la jeunesse du PDCI, Kakabé a plaidé pour davantage de justice sociale en Côte d'Ivoire. Pour les jeunes qu'il espère séduire, il a promis un prêt sans intérêt garanti par l'État pour financer les études. À un mois du scrutin présidentiel, la tension politique est forte en Côte d'Ivoire. En août, une quinzaine de personnes ont été tuées dans des violences après l'annonce de la candidature de M. Ouattara à un troisième mandat controversé. « Je m'engage à servir l'objectif suprême de la paix », a affirmé Kouadio Konan Bertin.
L'Azerbaïdjan a réclamé dimanche le retrait arménien du Nagorno-Karabakh, où les bombardements ont redoublé d'intensité sur les zones urbaines, suscitant l'inquiétude pour les civils. De nouveau, Michel Joseph.
Tout au long de la journée de dimanche, les deux camps ont multiplié les déclarations belliqueuses, tandis que les bombardements se sont intensifiés. Face à la hausse du nombre des victimes au sein de la population civile, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a exprimé sa préoccupation et réitéré son appel à un cessez-le-feu au plus vite. Dans la soirée, les combats se poursuivaient sur toute la ligne de front. L'armée du Nagorno-Karabakh ayant repoussé une nouvelle offensive azerbaïdjanaise, selon le ministère arménien de la Défense. Les séparatistes ont annoncé avoir détruit l'aéroport de Ganja, deuxième ville d'Azerbaïdjan, ce qui a été démenti par Bakou. Azerbaïdjanais et arméniens, qui démentent systématiquement les succès militaires annoncés par le camp ennemi, s'accusent aussi mutuellement de viser des civils. Le bilan des morts reste très partiel car Bakou ne communique pas ses pertes militaires. On décompte 251 victimes, dont 209 combattants séparatistes. 18 civils du Karabakh et 24 civils azerbaïdjanais, mais chaque partie affirme avoir tué plus de 2000 soldats ennemis.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les sports à présent avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football démarré le vendredi 2 octobre par le nul 2-2 entre Renaissance et Maniema Union. La Ligue nationale de la RDC s'est poursuivie ce dimanche.
Oui, et entame réussie pour Vita Club à Kinshasa. À Lubumbashi, Mazembe a finalement joué son match face à Blessing malgré l'incertitude liée à la sécurité de la ville. Le résumé de ce match avec notre correspondant à Kinshasa, Faldo Simbo Yamba Yamba.
L'incertain match de Mazembe Blessing à Lubumbashi s'est finalement joué comme prévu le dimanche 4 octobre et le champion en titre n'a pas eu la tâche facile puisque contraint un nul blanc par les promus Blessing. Score qui marque les débuts de l'entraîneur Drazen Zvekovic comme titulaire sur le banc des Corbeaux alors qu'il occupe cette fonction depuis mars 2020. Pendant ces temps à Kinshasa, Vec Club et Florent Ibengue l'emportaient sur l'Académie Club Rangers, score de la partie 3 contre 1. Et le Dauphin Noir offrait à cette 26e édition du championnat national sa toute première victoire. Ils prennent ainsi les commandes avec 3 points. Mais pour Florent Ibengue, son club doit encore continuer à travailler.
Tant mieux, bravo aux joueurs. Première victoire de la saison, il faut qu'on continue à travailler.
Autre nul blanc de ce dimanche 4 octobre, c'est celui qui a sanctionné l'opposition Aïssimba Jeunesse Sportive Groupe Bazano. La première rencontre officielle qui inaugure les stades Dominique Diour ouvert il y a peu. Après sa réhabilitation dans les lois là-bas.
Pour sa première, le Daring Club Motéba Pembe, interdit de recrutement par la FIFA, a été aussi accroché par le Racing Club de Kinshasa, score 1-0.
En Tanzanie, on jouait en revanche la 5e journée du championnat.
Tout à fait, et c'est le club d'Azam, vainqueur 4-2 des Sucres de Kagera, qui s'empare de la première place avec 15 points. Deux de plus que Simba Sport et Young Africans, respectivement vainqueurs 4-0 de JKT et 3-0 de Coastal Union.
Et au Maroc Élysée, il reste 2 journées à jouer dans la Bolota.
Exactement, Idrissa. Et le Raja de Casablanca a maintenu in extremis sa place de leader après avoir concédé le nul 2-2 à domicile devant la Renaissance de Berkane lors du match au sommet de la 28e journée du championnat. Un but de Raimi à la 95e minute a permis aux aigles verts de garder un point d'avance sur leur rival, le Wydad de Casablanca, accroché aussi à Agadi par Hassania. Berkane, lui, a 3 points de retard sur la première place.
En Égypte, après avoir été nommé entraîneur d'Al Ahly du Caire, Pitso Mosimane a été présenté samedi à la presse.
Oui, après avoir quitté les Mamelodi Sundowns avec qui il a réalisé le doublé Coupe Championnat, le technicien sud-africain s'est engagé pour une durée de 2 ans en faveur du géant du Caire. Il va donc remplacer le Suisse René Weiler qui a fait jouer une clause de son contrat pour se libérer de son engagement. Mosimane, 56 ans, a donc vécu sa première expérience à l'étranger hier par une victoire en championnat 1-0 contre Arab Contrator. L'ancien sélectionneur des Bafana Bafana est attendu en demi-finale de la Ligue des Champions contre les Marocains du Wydad de Casablanca.
Bonjour, c'est Yacouba Ouidraougou. Tout le lundi soir, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama à 19h temps universel. Pour participer, c'est très simple. Vous pouvez appeler en direct ou laisser vos commentaires et numéros de téléphone sur notre page Facebook. Nos spécialistes du sport sur le continent sont là pour vous apporter leur éclairage. À très vite sur le terrain de VOA Afrique.
Claire Morin-Gibourg avec vous. Je vous donne rendez-vous mardi dans À votre avis, votre émission débat à 18h05, temps universel sur VOA Afrique, consacrée à la rentrée scolaire en temps de coronavirus. Quelle est la situation dans votre pays? Êtes-vous pour ou contre l'ouverture des écoles? Aller à l'école avec le Covid présente des risques et ne pas y aller est un gros risque à long terme. Quelles sont les garanties de protection pour les élèves et les enseignants? Vous souhaitez participer? Laissez-nous vos réactions, vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique et nous vous rappellerons. Les débats sur VOA Afrique, c'est tous les jours dans À votre avis à 18h05. Temps universel.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+. plus.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République centrafricaine, alors que l'opposition insiste sur le vote des réfugiés aux prochaines élections, le gouvernement et la communauté internationale sont unanimes. Les scrutins du 27 décembre se feront sans la participation des réfugiés, et ce en raison du retard accusé dans la mise en œuvre du chronogramme électoral. De Bangui, notre correspondant Freeman Sipila.
Après l'échec face à la modification de certains articles du code électoral en septembre dernier, l'opposition ouvre une nouvelle brèche, celle de la question du vote des réfugiés. Pour la CO2 2020, la plateforme de l'opposition démocratique, les élections à venir ne peuvent être inclusives qu'avec le vote des réfugiés centrafricains. Ferdinand Alexandre Nguende, ancien président du Parlement de transition et cadre de la CO2 2020.
Nous avons fait du vote des réfugiés une exigence qui était au départ une exigence de la communauté internationale. Et nous ne pouvons pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse aller retirer sur la pointe des pieds le projet de loi déposé sous le bureau de l'Assemblée nationale portant vote des réfugiés. Le vote des réfugiés pour la Côte d'Ivoire n'est pas négociable.
Cette argumentation est soutenue par Augustin Agou, député du 1er arrondissement de Bangui et candidat à la présidentielle de décembre 2020.
Les compatriotes des réfugiés doivent obligatoirement voter. À ce moment-là, la Constitution a été violée parce que la Constitution dit tout ça. Centrafricain doit participer au vote.
Pour le gouvernement centrafricain, il n'y a pas de débat à faire autour de cette question. Vu l'évolution du processus électoral en cours, le vote des réfugiés ne peut être possible car il n'est pas une obligation constitutionnelle. Son porte-parole, le ministre de la Communication, Ange-Maxime Kazagui.
Le vote des réfugiés n'est pas une obligation constitutionnelle. Elle n'est pas une obligation légale. Mais le vote des réfugiés, le gouvernement en a fait une obligation morale. À la demande amicale de nos partenaires, mais aussi à la réflexion sur la question. On ne peut pas continuer de faire de la Centrafrique un pays d'exception. Il y a plus de deux pays dans le monde où il y a le vote des réfugiés. Cela a été fait par exception dans notre pays lors des précédentes élections. Il y a plusieurs pays sur cette terre, sur la planète, où il y a des réfugiés, des gens qui sont partis. Et dans ces pays-là, eh bien, les gens votent. Et les votes ne sont pas contestés. Et les votes sont estimés, malgré tout, inclusifs.
La sous-région de l'Afrique centrale et toute la communauté internationale sont unanimes. Elles se disent toutes pour des élections inclusives et démocratiques, mais écartent l'idée du vote des réfugiés au stade actuel du processus électoral. Esdras Kambale Baïkwa, ambassadeur de la République démocratique du Congo et doyen des ambassadeurs en Centrafrique.
Il faut l'inclusivité, c'est vrai. Il faut que les réfugiés votent, mais pour le moment, c'est très tard. Ce ne sera pas possible, sinon le processus électoral va être retardé. Donc les dispositions seront prises peut-être prochainement pour que cela soit fait. Je pense que la situation est très bonne. Il y a espoir que les réfugiés se tiennent dans les bonnes conditions.
Selon les estimations, aujourd'hui, plus de 600 000 réfugiés centrafricains vivent à l'étranger, un chiffre contesté par les autorités nationales, précisant que depuis le retour à la stabilité, des milliers de Centrafricains ont regagné leur pays. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Cameroun, 14 partis politiques vont prendre part aux toutes premières élections des conseils régionaux le 6 décembre. Les listes des candidats retenus ont été publiées par le président du conseil électoral d'ELECAM, Election Cameroun, l'organe en charge de l'organisation des scrutins dans le pays. Ce scrutin s'annonce disputé dans certaines circonscriptions électorales de Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jultap.
Le RDPC, parti au pouvoir, présente des candidats dans toutes les 58 circonscriptions électorales et fait en outre cavalier seul dans 35 départements, y compris dans les deux régions anglophones. Grégoire Ohona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC.
Nous n'avons empêché personne d'être candidat dans ces circonscriptions. Ça confirme notre présence partout Nous ne connaissions pas nos adversaires. Maintenant que nous les connaissons, le secrétaire général va mettre en place la bonne stratégie pour qu'on ait le meilleur score possible.
Cependant, un raz-de-marée du RDPC n'est pas certain. Des formations de l'opposition comme l'UDC ou l'URS dans la région de l'Ouest, l'UNDP dans la partie septentrionale du pays, sont en lice dans leurs fiefs électoraux respectifs. Maïdadi Sédou, candidat de l'UNDP dans la région du Nord.
On s'est présenté dans 5 régions et 12 départements. Nous allons très sereins, assez régional. Nous allons prendre au moins une région et entrer dans toutes les autres où nous nous sommes présentés.
Les partis de l'opposition vont également batailler entre eux pour le contrôle ou la représentativité au sein des exécutifs des conseils régionaux. C'est le cas dans les régions du littoral et du centre où l'Union des populations du Cameroun UPC et le Parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN sont en course. Bienvenue Vincent de Paul Nyunang, chargé de la communication de l'UPC.
La décentralisation a été conçue par l'Union des populations du Cameroun dans les années 50. Nous allons à cette élection pour le dire aux Camerounais. Prenez vos responsabilités. C'est pour le développement du pays.
De jeunes candidats se présentent également pour l'élection des conseillers régionaux au Parti Peuple Uni pour la Rénovation Sociale PURS. Pierre Laverdure-Omba est candidat dans le département du Mbam et Inoubou, région du centre.
Nous avons confiance en nous-mêmes et ce que nous pouvons apporter en termes de développement pour notre localité et pour notre région. La jeunesse, ce n'est pas un handicap. Notre jeunesse nous donne plutôt toutes les chances de pouvoir réussir et apporter quelque chose de nouveau. Quand on va pour challenger ceux qui sont présents depuis longtemps, on n'a pas peur.
Plusieurs listes de représentants du commandement traditionnel s'affrontent aussi lors des élections des conseillers régionaux. Au final, chacune des 10 régions du Cameroun va élire 90 conseillers régionaux, dont 70 représentants des départements et 20 du commandement traditionnel. Mais les deux principaux partis de l'opposition ont boycotté ce scrutin. Il s'agit du MRC du professeur Maurice Kamto et le SIF de John Fundi. Tous ont posé le préalable de la résolution définitive de la crise anglophone et la révision du code électoral pour y prendre part. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
En direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Au diable de la rentrée des classes, c'était ce 1er octobre. Après la suspension des classes pour cause de COVID-19, les autorités ont décidé de faire passer tous les élèves en classe supérieure et tout ce mois d'octobre devra être consacré au rattrapage des cours qui n'ont pas pu se tenir depuis mars. André Kodmadjingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
La rentrée scolaire 2020-2021, bien que progressive, est timide dans les écoles publiques sur l'ensemble du territoire national. Le manque d'engouement des élèves à la reprise des cours s'explique par le refus de ces derniers, promis tous en classe supérieure de prendre un mois de cours des classes antérieures avant d'entamer la nouvelle année en novembre prochain. Walmi Baywa, censeur d'un lycée littéraire de N'Djamena, fustige le comportement de ses élèves.
Même dans le programme pédagogique, sans la loi du ministre même, le premier semestre est toujours consacré à la révision. Je dirais de revenir le plus vite possible parce qu'ils ont mis 5 mois à la maison, ils ont tout oublié. Ce mois est très important pour qu'ils apprennent ce qu'ils n'ont pas encore appris et puis faire la révision. C'est très important pour eux. On suit ce que le ministre a dit, mais là, c'est la stratégie de chaque établissement. Chaque établissement a ses réalités.
Malgré la mauvaise interprétation de cette décision par certains élèves, elle est aussi appliquée dans toute sa rigueur dans les lycées scientifiques. Shamshaldin Mohamed Dab est l'un des proviseurs du lycée scientifique de N'Djamena.
Ces enfants de la seconde qui passent en première S, ils doivent rester en première S tout en ayant l'idée qu'ils vont faire les cours de la seconde. La même chose pour les classes de première qui sont en terminale. Parce que ces enfants, si on les demande de repartir encore en première ou en seconde, c'est un problème. C'est cette stratégie que nous avons adoptée avec tous les enseignants. Donc on finit l'année du mois d'octobre et les redoublants vont nous rejoindre le 2 novembre.
En revanche, les spécialistes pensent qu'il faut régler le problème d'une autre manière.
La solution serait plutôt de ne pas faire passer
systématiquement les élèves en classe supérieure. Mais organiser le dernier trimestre restant avec un mois et demi de cours, et puis à l'issue de ces un mois qu'on peut déjà évaluer les élèves et puis en même temps permettre leur passage en classe supérieure. Et si on le fait dans ce domaine, moi je pense que le problème n'allait pas se poser.
Jim Rassam Thales, pédagogue et enseignant-chercheur au département des sciences de l'éducation de l'université de N'Djamena.
Ce qui crée actuellement du problème à la fois chez les élèves, chez les enseignants et en même temps les parents d'élèves, c'est le fait que les élèves sont déjà admis en classe supérieure et qu'on leur demande de faire encore un cours de rattrapage. Donc moi je pense que psychologiquement l'élève s'est déjà orienté dans un domaine. Ce qu'il faut aussi relever, c'est la question d'orientation. Parce que quel est le critère? Parce qu'il y a déjà le passage automatique. Et dans le cadre de nos systèmes éducatifs, l'orientation commence à partir de la classe de 3e. Maintenant, l'élève qui passe en série A, série C ou série D, quel est le critère retenu par les responsables d'établissement pour pouvoir orienter les élèves?
C'est dans ce contexte que le syndicat des enseignants du Tchad commémore ce lundi 5 octobre la journée mondiale de l'enseignant. Une journée pour les enseignants d'évaluer le protocole d'accord signé entre le gouvernement et les partenaires sociaux en 2019, mais aussi exiger la levée du gel financier qui frappe les agents du secteur éducatif. André Kodoma Djingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Congo-Brazzaville, célébration du 140e anniversaire de la fondation de la capitale Brazzaville, sous fond de polémique, certains pensant qu'il est temps de mettre fin au culte du colonisateur. La capitale congolaise porte non seulement le nom de son colonisateur Pierre Savorgnan de Brazza, mais le pays a consacré à ce dernier tout un mémorial. De Brazzaville, notre correspondant Arsène Sévrin.
Plusieurs cérémonies ont marqué la célébration des 140 ans de la fondation de Brazzaville. Partout, le nom de l'explorateur français Pierre Savorgnan de Brazza, son fondateur, a été magnifié. Or, depuis un moment, certains Congolais estiment que le pays a trop fait de la place à ses colonisateurs. Pour l'activiste citoyen Charlène Kinoani et le politologue Constant Ebarapeya, il est temps que le Congo mette en avant ses propres héros.
On ne peut pas continuer à avoir des rues sur Brazzaville qui portent les noms de ceux qui nous ont colonisés, de ceux qui ont maltraité le peuple congolais. Nous avons intérêt à rebaptiser les espaces coloniaux, lycée Savorgnan de Brazza, square de Gaulle.
Il faudrait déboulonner le statut de Brazza pour remplacer celui de Makoko. Ce n'est que légitime, parce que je ne pense pas que pour voir au plein corps de Paris ou en plein Élysée qu'on élève une statue de Ngwabi ou de Lissouba ou de Milongo, je ne sais pas. Donc, c'est une revendication légitime.
Mais pour l'historien Melfon Kamba, le colonisateur Savorgnan de Brazza mérite encore de la reconnaissance et des éloges des Congolais.
Quand il arrive ici, c'est pas pour Brazzaville, non. C'est le Congo, la communauté du Congo. Bien avant lui, il y a eu des colons, ou si vous voulez, des Européens, mais personne n'a eu l'idée de nous réunir dans un espace aussi communautaire sur lequel aujourd'hui nous nous battons. Bien sûr que le point de départ de son contact avec mon Congo, et ça aussi, il faut essayer aussi de rétablir les choses.
Le Congo a consacré depuis 2005 tout un mémorial à son colonisateur, un palais de marbre à coups de milliards de francs CFA. Sa directrice Belinda Ayessa défend que Savorgnan de Brazza fut un humaniste et que la population ne devrait pas déboulonner pour déboulonner.
Il faut tout déboulonner. Il faut dépassionner l'histoire. C'est très important que l'on ne déboulonne pas pour déboulonner, parce que ces statues sont des repères pour nous, qui nous rappellent notre histoire.
Créé le 3 octobre 1880, Brazzaville a tour à tour été capitale du Moyen Congo, de l'Afrique équatoriale française et de la France libre. Elle s'apprête à célébrer le 27 octobre prochain, malgré la protestation des activistes, le 80e anniversaire de l'appel à la résistance du général de Gaulle, lancé ici même. Arsène Sévérin, Brazzaville, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoulia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de